tous, chers auditeurs et auditrices. Il est 16h30, nous sommes le 1er décembre. Les calendriers de l'Avent commencent déjà à être ouverts avec la première case. Et on est parti pour commencer cet après-midi. Cette rubrique pour finir cette semaine avec toujours la petite rubrique de Radio GEA que vous attendez tous. Et en premier, quoi de mieux que de commencer par une interview professionnelle sur les spécificités du GEC. Et j'accueille pour cela Marion et Méline. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et je vous laisse la parole.
Merci Manon. Nous allons interviewer Madame Poujon, coordonnatrice emploi formation du GEC BTP 19.
Bonjour Madame Poujon.
Bonjour.
Alors nous allons vous présenter. Donc vous êtes en charge de recruter les candidats. Et pour cela, vous publiez des offres d'emploi et vous participez à des forums d'emploi. Vous travaillez en étroite collaboration avec les services de l'emploi. Ces services sont Pôle emploi, la mission locale et le conseil départemental. Vous avez également pour objectif la gestion financière du groupement et la promotion du GEC.
Enfin, vous accompagnez les candidats dans leurs projets et vous organisez des parcours de formation. Maintenant, nous allons vous interroger sur les spécificités du GEC, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le GEC ?
Alors oui, je vais vous expliquer. Alors le GEC, en fait, ça veut dire groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc c'est un groupement d'entreprises. L'objectif, c'est de l'insertion de publics prioritaires, donc des personnes qui peuvent être en difficulté, des demandeurs d'emploi de plus de 12 mois, des jeunes qui n'ont pas de qualification, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des travailleurs handicapés, des bénéficiaires RSA, etc., etc. Et l'objectif, c'est par le biais d'une formation en alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, les amener à une qualification professionnelle, diplômante ou non, tout ça dans un but de pérenniser l'emploi dans des entreprises. Donc c'est un collectif d'entreprises qui recrutent pour leurs propres entreprises, en fait. Voilà.
D'accord. Et donc, selon vous, quels sont les avantages du GEC pour les entreprises et pour les salariés ?
Alors, pour les entreprises, eh ben, c'est une mutualisation du service RH, puisque comme nous sommes le recruteur, ben, c'est nous qui nous occupons de toutes les démarches professionnelles, que ce soit les formalités administratives. Donc là, ben, ça, c'est une mutualisation des besoins. Pour l'entreprise, l'avantage aussi, c'est que ça permet de connaître la personne sans en être directement l'employeur, en fait. Donc pour ça, c'est un atout positif. Et puis après, ça peut être aussi de la main-d'œuvre ponctuelle pour elle en partage de main-d'œuvre avec d'autres entreprises, puisque l'employeur est le GEC et qu'il est mis à disposition dans ces entreprises. Donc ça, c'est, j'allais dire, il y a d'autres avantages aussi pour les entreprises. Il y a des avantages pour le salarié aussi, puisqu'il a, en fait, par le biais d'un seul employeur, il a accès à beaucoup d'employeurs, puisque c'est un collectif d'entreprises. On a des entreprises adhérentes qui versent une cotisation. Hein, nous sommes une association. Et donc, pour le jeune qui va être... Enfin, le jeune et le moins jeune, hein, puisque, par contre, on peut prendre, de 15 ans jusqu'à la retraite. Donc, voilà, donc on a quand même cette possibilité-là. Ben, pour le salarié, l'avantage, c'est l'accès donc à différentes entreprises. C'est un accompagnement dans le cadre de son projet professionnel. C'est une personnalisation aussi de son projet, puisque c'est vraiment un projet à la carte en fonction de lui, de ses besoins, mais aussi des besoins de l'entreprise et des attentes de celle-ci. C'est acquérir une qualification professionnelle. C'est avoir accès aussi derrière à un emploi durable, puisqu'en général, les entreprises, quand elles recrutent par ce biais-là, ben, leur objectif, c'est d'intégrer la personne dans leurs entreprises en CDI. Donc, c'est une source de main-d'œuvre, en fait. Le GEC, en fait, c'est un SAS avant de pouvoir intégrer directement dans leurs entreprises.
Voilà. Alors, merci. Vous venez d'évoquer les avantages, mais aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés à recruter. Mais dites-nous, dans quel métier ?
Alors, moi, je représente le GEC BTP 19, donc Corrèze, mais BTP, c'est bâtiment et travaux publics. Donc, nous, on est aussi le reflet des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc, on a effectivement des besoins de recrutement. Ce GEC a été créé, d'ailleurs, par rapport à ce besoin de recrutement il y a déjà 26 ans, puisque les entreprises manquaient cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Donc, l'objectif, c'était de créer ce groupement pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ça a été la première chose. Maintenant, on sait que les entreprises recherchent des personnes qualifiées, donc on est une des réponses. Mais par contre, il y a encore certains métiers qui souffrent d'un intérêt, j'allais dire. Et je pense que c'est aussi par la méconnaissance des métiers. Alors, on a des métiers sur lesquels on recrute moins facilement. Il y en a d'autres où on recrute plus facilement. Le bâtiment, on l'associe souvent à la maçonnerie, alors qu'il y a une multitude de métiers. On travaille le bâtiment et travaux publics. Alors, pour par exemple, les métiers où on n'a pas beaucoup de recrutement, où c'est plus difficile, c'est par exemple la couverture. On va être sur des métiers bien spécifiques. Alors, ils sont quand même connus, ces métiers. métiers. Je pense aussi au métier de monteur réseau électrique. Ça, c'est les électriciens des travaux publics. Ça, c'est un métier qui n'est pas très connu. Alors, on voit ceux qui sont sur les poteaux électriques, mais on ne pense pas que ce sont des métiers des travaux publics. Et là, nous, ben, on peut former. Et ça, ce n'est pas des gens qui spontanément vont venir vers nous. Il y a les électriciens du bâtiment, ben, celui qui va mettre tout le branchement dans la maison pour l'interrupteur. Mais pour arriver à l'électricité là, il y a ben, tout le travail qui est fait dans les tranchées à l'extérieur. Et ça, c'est donc les poteaux électriques, aériens et souterrains. Et ça, c'est les monteurs réseau. Et ça, on a un déficit de personnes, hein, on est en recherche. Et donc, nous, on essaie de valoriser, de promouvoir les métiers pour attirer les personnes et après ben, les former pour répondre aux besoins des entreprises. On est vraiment un outil d'entreprise, en fait.
Voilà. Merci. Et pensez-vous que ces difficultés sont liées aux politiques sociales ? Par exemple, concernant la diminution de l'aide pour l'apprentissage, pour vous, quelles en sont les conséquences ?
Alors, le problème du recrutement de toutes ces personnes, alors je pense qu'il y a déjà un déficit d'image, ça c'est évident. Alors, on y travaille, hein, il y a des organisations professionnelles qui font de la promotion, on essaie d'attirer les femmes dans nos métiers, etc. Donc, cette difficulté de recrutement, il y a ça. Je pense qu'aussi, alors, l'attrait du métier, ça c'est évident. Après, en termes de, vous parliez de politique sociale, les aides à l'apprentissage, ont quand même donné un coup d'accélérateur pour les entreprises qui ont quand même beaucoup recruté, puis les jeunes sont venus aussi vers ces métiers. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore beaucoup de besoins et y a plein de manifestations. Et ce n'est pas que dans notre secteur, c'est dans tous les secteurs d'activité où les personnes ne viennent pas spontanément vers nos métiers. Donc il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Les aides, c'est un coup de pouce. Malheureusement, on est tributaire aussi de ce qui est décidé. Elles ont quand même diminué par rapport à l'année dernière. Normalement, on nous annonce qu'elles vont être prolongées jusqu'à la fin de mandat de Macron. Pour l'instant, on les a jusqu'au 31 décembre. Donc ça, après, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Nous qui faisons de la mise à disposition, on est un prestataire de service. Donc nous, on refacture en fait aux entreprises. Donc il est bien évident que moins on a d'aide, moins on refacture. Mais j'aime à dire que les entreprises, quand elles ont des besoins, ce n'est pas le seul critère, le côté financier qui va les amener à recruter. Je pense que voilà, par rapport aux politiques qu'il y a, il y a des choses qui sont faites pour justement mobiliser les jeunes et les moins jeunes pour aller vers nos métiers. Mais voilà, ça, c'est des coups de pouce, on va dire, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence. Je pense qu'après, il faut une ouverture aux autres. On participe à des forums, on va dans des lycées, on fait la nuit de l'orientation. Enfin, on est partout, on fait les coulisses du bâtiment. Donc là, c'est aussi une manifestation où on laisse venir des collégiens pour leur montrer quels sont les différents métiers pendant un chantier. Ils voient la coordination des différents métiers. En fait, c'est ouvrir l'esprit de tout le monde pour essayer d'attirer, sachant que les métiers du bâtiment, ce n'est pas que le chantier, il y a aussi la conception en amont. Et c'est des métiers où il y a des nouveaux matériaux, etc. Et où il y a des perspectives aussi. Donc, il faut aussi mettre un peu des étoiles dans les yeux. Ce n'est pas qu'être sur un chantier, à se salir, etc. Et je pense que ça, voilà, c'est aussi le travail de promotion de l'outil, quoi. Voilà. Enfin, des métiers, pardon. Voilà.
Ainsi, pensez-vous... pouvons-nous dire que le GIEC joue un rôle dans le cadre des tensions liées à la situation actuelle du marché du travail ?
Alors, nous, on joue un rôle pour nos entreprises du bâtiment, puisque quelque part, on est un vivier de candidats pour les amener vers de la qualification. Donc, ils nous utilisent, nous, pour des futurs professionnels en devenir. Donc, on répond à une partie des besoins des entreprises. Donc, oui, on répond en partie à des besoins, mais... Je dirais qu'on est presque plus le thermomètre des entreprises que l'inverse. C'est-à-dire que dès l'instant où les entreprises vont avoir une charge de travail en moins, ben forcément, ça va avoir une répercussion sur nous. Mais par contre, on est bien un outil d'entreprise et ils nous mobilisent bien pour faire le delta entre justement leurs besoins de personnel futur et ceux qu'ils ont actuellement. Donc, à ce titre-là, on a notre rôle à jouer. En tout cas, si on existe, c'est bien parce qu'ils ont pensé qu'on avait un rôle à jouer et ça fait 26 ans que ça dure. Donc, donc ça veut bien dire qu'on a notre place et qu'ils s'appuient sur nous pour le recrutement, pour de l'alternance.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Poujon, pour votre intervention. Nous laissons la parole à Manon.
Merci, Marion et Emeline, pour cette intervention. Et maintenant, nous allons passer au domaine politique avec Marina et Loan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et aujourd'hui, ça va être sur la loi qui vient d'apparaître en France et qui a fait débat. C'est la loi sur l'immigration. Récemment adoptée par le Sénat, il faut savoir que ce texte a été nettement durci par le Sénat, qui est majoritairement de droite. Gérard Darmanin tweet que c'est un texte important qui contient de la fermeté.
Donc parmi les points phares de cette loi, la suppression de l'aide médicale de l'État qui a fait énormément de débats ces derniers jours. Avant, les étrangers en situation irrégulière en France depuis plus de 3 mois pouvaient avoir leurs frais de santé couverts à 100% dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. À la place, ce serait une aide médicale d'urgence pour les maladies graves, les soins liés à la grossesse ou encore les vaccinations. Les étrangers en situation régulière devraient justifier de 5 ans de résidence contre 6 mois à l'heure actuelle pour pouvoir bénéficier des allocations comme l'APL ou les allocations familiales. Il n'y aurait plus de restrictions sur les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Avant l'adoption de ce texte, les personnes présentes sur le territoire depuis au moins 10 ans, celles mariées avec un Français ou encore les parents de mineurs français étaient protégées contre l'expulsion. Le Sénat supprime aussi l'automaticité du droit du sol.
Comment ça, il la supprime ?
Aujourd'hui, les jeunes nés en France obtiennent automatiquement la nationalité française à leur majorité. Le texte prévoit que pour acquérir la nationalité française, il faut en manifester la volonté à partir de 16 ans et jusqu'à 18 ans. Elle ne pourrait pas être obtenue si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement. L'article initial sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, comme la restauration, le bâtiment ou l'aide à la personne, a été supprimé. La procédure pour obtenir un titre de séjour serait strictement encadrée. Il faudrait avoir exercé un emploi sous tension pendant au moins 12 mois sur ces 2 dernières années et avoir sa résidence en France pendant 3 ans. Enfin, le Sénat a également durci ce qu'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire les conditions de séjour pour qu'un étranger réside en France puisse faire venir sa famille. Le délai pour formuler la demande passerait de 18 à 24 mois. Le texte sera débattu le 11 décembre à l'Assemblée nationale et il pourra de nouveau être modifié. Toutes ces mesures ne seront pas forcément adoptées telles quelles et on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines.
Merci Marina et Loane pour cette intervention. Nous allons parler économie, nous allons parler de l'inflation, un sujet qui touche tous les Français. Et aujourd'hui, j'accueille Sarah et Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Qui vont évoquer l'impact de l'inflation sur les associations.
Donc bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet économique crucial qui touche de près de nombreuses associations, l'inflation. Comment cette force économique peut-elle influencer le travail quotidien des associations ?
Avant d'explorer l'impact de l'inflation sur les associations, revenons rapidement sur ce qu'est réellement l'inflation. En termes simples, il s'agit de l'augmentation générale et durable des prix des biens et services dans une économie. Cette hausse des prix peut découler de divers facteurs tels que la demande accrue, les coûts de production croissants ou encore des problèmes monétaires.
Maintenant, penchons-nous sur la manière dont l'inflation peut affecter les associations. Ces organisations, souvent à but non lucratif, dépendent largement de financements et de donations. Lorsque le prix augmente, les coûts opérationnels des associations augmentent également.
Les Restos du Cœur, l'emblématique association lancée par Coluche en 1985, est en grande difficulté économique. Comme le cite le délégué général Jean-Yves Troy, nous ne sommes plus taillés pour répondre aux besoins. La preuve, la hausse des prix a atteint 4% en octobre et selon les données de l'INSEE, l'alimentation a augmenté de 7,8%. Mais que fait le gouvernement face à cette situation ?
Le gouvernement ? Les Restos du Cœur ont demandé au gouvernement de mettre en place un plan d'urgence consistant à augmenter le budget alimentaire de 50 millions d'euros. Alors certes, le gouvernement d'Elisabeth Borne a tenu sa promesse en donnant une aide financière, mais seulement 15 millions d'euros. Croyez-vous vraiment que cela est suffisant ?
Mais non, ce n'est pas suffisant. Plus de 7 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire. Entre 2022 et 2023, les Restos du Cœur ont accueilli 1,3 million de personnes contre 1,1 million de personnes la période précédente, ce qui représente 200 000 personnes en moins. Entre 5 et 10% des personnes qui ont été accueillies à bras ouverts l'hiver dernier se voit cette année refuser l'aide alimentaire.
La situation est grave. On peut rajouter à tes propos, Sarah, que pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur, l'association pense à diminuer le nombre de repas à distribuer. Le pire est que les Restos du Cœur vont être obligés de refuser des bénéficiaires. Cette situation est causée par le fait que le budget des achats alimentaires a doublé à cause de l'inflation que le gouvernement ne veut pas cesser.
C'est inadmissible. Comment le gouvernement peut laisser autant de personnes en difficulté ?
Que peut-on en conclure ? Que le gouvernement n'est pas capable d'aider les Français ?
Je pense que tout le monde l'a compris. En espérant que nos propos permettront d'avoir une réaction du gouvernement en faveur des associations, mais également des Français.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci Sarah et Mathilde. Passons maintenant au côté local, en parlant de notre chère ville, Brive-la-Gaillarde. Et comment parler de Brive-la-Gaillarde sans parler de la Foire du Livre, qui se produit tous les ans? Et pour cela, j'accueille deux invités, Lisandre et Nabila. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et je vous laisse la parole pour nous parler de cet événement.
La Foire du Livre, événement littéraire majeur en France, chaque année à Brive, se déroulent des rencontres, des dédicaces, des tables rondes et des animations diverses.
Tout commence en 1973, quand un groupe d'amis passionnés de lecture, dont l'éditeur et écrivain Jacques Pochemar et associé Gérard Delsol, un libraire de la ville. Ensemble, ils décident de vendre sur le marché des livres d'auteurs connus.
C'est ensuite, en 1982, que cet événement gagne en notoriété et devient plus professionnel avec la venue de plus de 30 000 visiteurs. On pouvait y retrouver plusieurs auteurs nationaux comme Jeannine Boissard et Christian Signol.
Cet événement incontournable, que dis-je, indispensable à la vie culturelle, se classe en second après le Salon de Paris. Et devinez quoi ? Le prix de la langue française y est décerné. Revenons maintenant sur l'année 2023. Une année record, c'est plus de 70 000 livres vendus, soit près d'un million, oui bien un million de chiffre d'affaires pour la foire. À cette foire, 400 auteurs de 163 maisons d'édition étaient présents. La foire est composée de deux parties, générale dans la Halle Brassens et jeunesse à l'espace des Trois Provinces.
Et on pouvait retrouver qui dans la partie générale ?
Des auteurs incontournables étaient présents. Amélie Nothomb, Gilles Le Gardinier, Michel Bussy, Raphaël Giordano, Virginie Grimaldi, mais encore Catherine Pancol ou Marc Lévy, ils étaient tous au rendez-vous. Le renommé Jean-Baptiste Andréa, gagnant du Goncourt, a pu dédicacer son roman « Veiller sur elle ». Ce livre raconte la lente ascension d'un sculpteur de génie.
On peut y lire l'histoire de Mimmo, un vieil homme qui se meurt dans un couvent en Italie. N'étant pas un religieux, il a souhaité finir sa vie dans ce lieu pour veiller sur elle. Né pauvre, mais ayant de l'or dans les mains, il est très jeune confié à un de ses oncles, qui est un sculpteur, mais sans succès. On pouvait retrouver à la foire quelques auteurs à succès du moment, comme Panayotis Pasco pour son livre « La prochaine fois que tu morderas la poussière ». Il a déclaré dans une interview
« Ce livre me fait peur. Le processus a été douloureux. Mon père nous a annoncé qu'il n'allait pas tarder à mourir et je me suis mis à écrire. Trois années au peigne fin, mes relations, mes pensées paranoïaques, mon rapport étrange à lui, craché sur le papier. Je me suis donné pour but de le tuer avant qu'il ne meure. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à tuer, soi ou le père. Finalement, ça revient au même. »
Oh, bah, je vais noter ce livre sur la liste pour le Père Noël, vu que bientôt, c'est Noël dans quelques jours. Mais alors, que l'on retrouve, nous, dans la partie jeunesse et bande dessinée ?
Eh bien, dans cette partie, le grand invité était Timothée de Fombelle. Il était venu en amont de l'édition de 2022 pour assister à un rendu de travail collectif, effectué par des collégiens. Pour son retour à Brive, différentes rencontres étaient prévues. Un grand entretien, mais aussi des moments privilégiés durant lesquels des collégiens pouvaient dialoguer avec l'auteur. Il a également remis des prix jeunesse, tu l'as lu.
Pour le côté BD, le grand invité était Jules. Il est dessinateur de BD et c'est notamment à lui qu'on doit les divertissantes sagas Silex and the City ou 50 nuances de grec, ou encore les derniers albums des légendaires Lucky Luke. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui l'auraient manqué et pour toutes les passionnées, la foire revient du 8 au 10 novembre 2024.
Un petit aparté pour les auteurs qui nous écoutent. Si vous souhaitez y participer, les inscriptions ouvriront en ligne en mai 2024. Cette 42e édition attend près de 100 000 visiteurs et plus de 400 auteurs.
Alors vous y serez ? Merci beaucoup Lisandre et Nabila. Nous allons changer de sujet et nous allons parler d'une entreprise, Sotis, accompagnée de Megan et Mathilde. Bonjour.
Bonjour.
Alors racontez-nous, de quoi voulez-vous nous parler?
26 septembre 2023. Un guide, un pionnier et un visionnaire. Il faisait partie des précurseurs de l'esthétique professionnelle moderne. C'est par ces mots que le groupe Sotis annonce le décès de son fondateur, Bernard Mas.
Mais qui est Bernard Mas?
À 26 ans seulement, il est devenu PDG de l'entreprise qu'il a fondée, Sotis. Il était principalement président du conseil stratégique au sein de ce groupe et dirigeait également 11 entreprises. En effet, il se diversifie également dans l'immobilier. Il garde tout de même à l'esprit le monde de la cosmétique en donnant comme nom à ses chambres d'hôtes la ferme de beauté.
Et c'est quoi Sotis?
Depuis 1966, le groupe crée, développe et distribue des produits de beauté. Cette PME familiale représente l'excellence française du soin en institut et spa. Elle est implantée dans 130 pays, compte plus de 500 salariés dans le monde, réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et a une présence historique dans les spas, hôtels et instituts les plus prestigieux du monde.
Pourquoi avoir choisi ce nom et d'où vient-il?
Sotis vient du grec. Eh oui, c'est le nom de la déesse égyptienne de la beauté.
Mais qui va succéder à ce grand homme?
Ce sont ses enfants, Frédéric et Christian Mas, qui vont reprendre les rênes de l'entreprise.
Mais comment leur père leur a donné envie de reprendre les rênes de l'entreprise familiale?
Christian Mas répond: mon père a eu l'intelligence de ne pas nous mettre la pression, de nous laisser faire comme nous le voulions.
Christian, 50 ans, est à la tête du développement de la marque à l'international et Frédéric, 48 ans, aux commandes du groupe qui réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Nous vous laissons sur ce chiffre significatif.
Bah écoutez, merci Mégane et Mathilde pour cette intervention. Et maintenant, nous allons parler histoire avec la guerre froide et son apogée avec Ethan et Célestin. Bonjour.
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 Et écoutez, bah, je vous laisse la parole.
Alors, la guerre froide, telle une danse épique entre deux géants endormis, fut un ballet diplomatique où les protagonistes, les États-Unis et l'Union soviétique, évoluent sur un parquet mondial glacé. Cette guerre sans flamme, pareille à un duel d'ombre, a tissé une toile tendue de méfiance, une partition de discorde jouée sur l'orchestre des relations internationales.
Comme un iceberg majestueux émergeant de l'océan de la politique, la guerre froide révélait seulement sa pointe visible, cachant les profondeurs glaciales des rivalités idéologiques et des ambitions expansionnistes. Les deux superpuissances, telles que des échiquiers géants, déployaient leurs pièces stratégiques dans un jeu silencieux où chaque mouvement pouvait déclencher une avalanche d'événements.
Dans ce théâtre mondial, l'équilibre nucléaire était le fil tendu d'une funambule diplomatique, un équilibre précaire entre la paix et la destruction. Les bras de fer idéologiques et les alliances changeantes formaient une chorégraphie complexe, un ballet diplomatique où chaque geste était scruté avec suspicion.
La guerre froide, comme une éclipse prolongée, jetait son ombre sur le monde, créant une atmosphère de tension permanente, une symphonie de craintes sourdes et d'alliances fragiles. Elle était une énigme géopolitique, un jeu d'échecs où les pions étaient des nations et les rois des idéologies.
Ainsi, la guerre froide se déployait, non pas en explosions flamboyantes, mais en nuances subtiles, en frissons politiques et en souffles retenus. Elle était une toile d'araignée diplomatique où chaque fil tiré pouvait faire vibrer l'ensemble de l'ordre mondial. Les pays membres de l'OTAN et membres du pacte de Varsovie, entraînés dans ce ballet, seraient alors consumés par ce brasier gelé au bord de la surchauffe.
Malgré le froid de la guerre, elle se réserve des moments de chaleur. Octobre 1962, une toile où la guerre froide a peint ses ombres les plus sombres. Les États-Unis découvrent les ombres nucléaires soviétiques se dessinant à Cuba, déclenchant une danse macabre connue sous le nom de la crise des missiles cubains. Les deux géants se figent, prêts à se jeter dans la maelstrom nucléaire.
Le 27 octobre 1962, le sous-marin soviétique B-59 glisse dans les profondeurs près de Cuba. Alors que la mélodie mondiale atteint son paroxysme, le capitaine Valentin Savitsky, pris dans une symphonie de chaleur oppressante et insoutenable, ordonne la préparation d'une torpille nucléaire en réponse aux grenades de l'orchestre américain.
Mais dans cette cacophonie imminente de destruction, Vassili Arkhipov, le maestro adjoint, s'élève comme un soliste héroïque face à la discordance imminente. Il s'oppose au crescendo nucléaire, exigeant une harmonie unanime de l'équipage avant d'accorder la note fatale.
Grâce à la résilience d'Arkhipov, le sous-marin émerge sans déclencher une symphonie apocalyptique. Cet acte magistral marque un tournant dans la crise, conduisant à une partition de négociations et une diminution progressive des notes discordantes entre les superpuissances.
Aujourd'hui, ces tensions sont du passé, mais avec les événements actuels, nous nous devons de redoubler de vigilance. Merci.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre intervention très enrichissante. Comment ne pas parler d'histoire sans parler des faces cachées des personnalités connues? Et je suis accompagnée de Hugo et Frédéric. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous allez nous parler de Che Guevara, ou surnommé aussi sur son nom plus connu, le Che. Et bah écoutez, je vous laisse introduire ce personnage historique.
Chers auditeurs, ce soir, dans notre émission Les faces cachées de l'histoire, nous revisitons la vie d'Ernesto Che Guevara, figure emblématique de la révolution cubaine et symbole mondial de rébellion et de changement. Né en Argentine en 1928, le jeune Che Guevara deviendra plus tard connu sous le nom de Che, un terme affectueux en Argentine. Médecin, penseur, révolutionnaire, le Che a laissé une empreinte indélébile sur le XXe siècle.
Et au-delà de cette image iconique, qui était vraiment Ernesto Guevara ? Plongeons-nous dans les faits historiques moins connus qui peignent un portrait plus complexe de cet homme. Premièrement, l'asthme. Le Che a lutté contre cette maladie toute sa vie, un combat qui ne l'a jamais essoufflé dans la poursuite de ses idéaux. Cette vulnérabilité physique contrastait fortement avec sa réputation de guerrier endurci.
Le saviez-vous que le Che était un passionné de voyage ? Son périple à moto à travers l'Amérique du Sud n'était pas qu'une aventure, mais une exploration des inégalités sociales qui a façonné sa vision politique.
Un aspect souvent méconnu de la vie du Che est son amour pour la littérature et la poésie. Un révolutionnaire, oui, mais aussi un esprit profondément cultivé et artistique.
Dans la révolution cubaine, Guevara n'était pas seulement un guérillo, mais aussi un acteur clé dans l'économie de l'île, jouant un rôle crucial dans la réforme agraire et la Banque nationale. Une polyvalence remarquable pour un homme souvent réduit à son rôle de combattant.
Mais le Che avait aussi ses zones d'ombre. Impliqué dans la mise en place systémique répressive à Cuba, il a été critiqué pour son rôle dans les exécutions et l'oppression des dissidents. Des actions en contradiction avec ses idéaux de liberté. Aujourd'hui, nous avons exploré les différentes facettes d'Ernesto Che Guevara. Un personnage complexe, un mélange de courage, d'idéalisme et de contradictions. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Hugo et Frédéric. Maintenant, nous allons passer à un côté plus humoristique. Nous allons parler de fiction, explorer le côté fictif de l'histoire avec Eda et Katia. Bonjour.
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 Alors, de quoi allez-vous nous parler ? De quoi s'agit-il ?
Nous allons aujourd'hui explorer un sujet fascinant qui a captivé l'attention du public du monde entier. Les prédictions étonnantes des Simpsons sur la pandémie de Covid-19. Depuis de nombreuses années, cette série animée a été célèbre pour ses coïncidences surprenantes avec des événements réels. Mais alors, les Simpsons avaient-ils vraiment prédit l'arrivée du coronavirus en 1993 ? Réalité ? Fake news ? On découvre ça tous ensemble.
De nombreuses publications partagées sur Facebook, Instagram, X et TikTok ont été la flambée de rumeurs à ce sujet. Souvenons-nous d'ailleurs de l'épisode 21 de la saison 4, connu sous le nom de Marge à l'ombre, portant sur la propagation d'un virus à Springfield. Eh bien, celui-ci provient toutefois du Japon et est appelé grippe d'Osaka, d'après le journal télévisé présenté par le journaliste Ken Brockman de la série.
Mais c'est pas fini. Pendant un journal télévisé, Ken Brockman est représenté à côté d'un écran sur lequel est écrit « Apocalypse Miaou ». On peut observer que sur l'image retouchée, « Apocalypse Miaou » a été recouvert par l'inscription « Coronavirus ».
Mais non.
Le site de l'AFP a démonté cet intox qui a pourtant été tant relayé sur les réseaux sans aucune vérification.
Mais c'est quoi la morale de l'histoire ?
Eh bien, ce serait de bien vérifier les sources des informations avant de les propager.
Un peu de coïncidence, un peu de Photoshop, un peu d'imagination, et hop, trouver des éléments similaires entre les Simpsons et la réalité ne semble pas vraiment très compliqué. Quoi qu'il en soit, la prédiction du Covid-19 par les Simpsons reste un sujet fascinant qui continue de captiver les esprits du public. Que ce soit une simple coïncidence ou une forme de prémonition artistique, cela soulève des questions sur la façon dont l'art et la réalité peuvent parfois se croiser de manière inattendue.
Restez avec nous pour explorer d'autres mystères et curiosités culturelles et n'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions sur cette théorie intrigante. Vous écoutez Radio GEA, votre source d'informations et de divertissement captivante.
Merci Eda et Katia pour cette intervention. J'ai appris de nombreuses choses et je pense que nos auditeurs aussi. Donc merci encore.
Merci à vous.
Merci.
Et nous allons terminer avec le sport. Et nous accueillons aujourd'hui Audrey et Axel. Bonjour.
Bonjour Manon.
Bonjour Manon.
Vous allez nous parler des possibles organisations des JO de 2030 dans les Alpes.
En effet, salut à tous. Préparez-vous à dévaler les pentes avec nous alors que nous plongeons la tête la première dans l'organisation des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans les Alpes. Accrochez-vous, ça va être une descente de folie.
Pour commencer, les Alpes, ce n'est pas juste une montagne. C'est un véritable parcours du combattant qui s'étend sur plusieurs pays. Choisir le bon endroit, c'est comme choisir la meilleure piste de ski. Il faut de la bonne neige, un bon accueil et des infrastructures au top. Et ce n'est pas une mince affaire. Imaginez un peu, il faut trouver le juste équilibre entre des pistes de ski de qualité, des installations modernes et une capacité d'accueil suffisante pour accueillir des milliers de personnes. Le village olympique sera basé à Nice, tout comme les épreuves de patinage artistique. Le pôle alpin sera basé à Méribel et Courchevel. Et la station de ski, la Clusaz, accueillera le ski de fond.
Ensuite, on passe à la logistique. Imaginez un peu le défi, transporter des athlètes, des officiels et des spectateurs. C'est un peu comme organiser un repas de famille chez papy et mamie. Et n'oublions pas, les hébergements. On ne peut pas tous dormir dans un igloo. Il faut donc prévoir des hôtels, des auberges, des chalets, bref, tout un village olympique à construire. Et pour la sécurité, Axel ?
C'est comme faire du patin à glace, sur une piste verglacée. Il faut des mesures de sécurité solides pour protéger tout le monde. On ne veut pas de barquettes. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité physique, c'est aussi une question de sécurité numérique. Il faut s'assurer que tout est bien protégé, avec toutes les données qui circulent pendant les Jeux.
Et pour finir, parlez-nous de l'environnement, de l'impact des JO sur l'environnement.
Organiser les Jeux olympiques d'hiver, c'est un peu comme faire un bonhomme de neige géant. Ça laisse une empreinte. Il est donc crucial de penser durable pour minimiser cet impact. Et ce n'est pas seulement une question de construction, mais aussi une question de gestion de déchets, de consommation d'énergie, de transport. C'est donc tout un défi pour rendre ces Jeux aussi verts
ou blancs comme neige
que possible, notamment avec la réutilisation des anciens sites olympiques, des Jeux olympiques. Un mode de construction et de transport durable ou encore un système de tri de déchets.
Et voilà, c'est la fin de notre descente. Merci d'avoir écouté notre rubrique sur l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes. Restez branchés pour plus de frissons hivernaux.
Merci Audrey et Axel pour votre intervention.
Merci Manon.
Fin de cette rubrique. Merci à tous nos invités qui sont intervenus et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir choisi Radio GEA. Et à très vite.